Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre Santé, un trésor. Nous recevons aujourd'hui le docteur Marc Fréard, qui est acupuncteur. Bonjour à vous, docteur Fréard, et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jacques, merci de votre invitation.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, vu votre CV que vous m'avez fait, vous avez la gentillesse de me faire passer, vous présenter mieux que ce que je pourrais le faire?
Oui, je suis praticien hospitalier, je suis responsable de l'unité d'acupuncture au CHU de Nîmes, voilà, responsable de l'unité d'acupuncture du CHU de Nîmes depuis 2022. J'ai une qualification en médecine générale et j'ai un parcours aussi dans la médecine chinoise et l'acupuncture qui m'a amené en Chine. Et je suis diplômé, j'ai un doctorat de l'université de médecine chinoise de Nanjing en médecine interne à orientation cancérologie, ce qui est aussi guide pas mal ma pratique au jour d'aujourd'hui.
Alors, que j'explique aux auditeurs, qualifié, vous êtes qualifié en médecine générale. Alors, vous savez que je l'ai déjà dit dans des émissions, mais je me répète, parce que dans un but pédagogique, en France, pour être médecin, praticien, hein, il faut être français, avoir un casier judiciaire vierge, avoir un diplôme de docteur en médecine, il faut être inscrit à l'ordre, il faut que l'ordre vous qualifie. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit, mais que l'ordre ne vous qualifie pas, ben vous ne pouvez pas pratiquer. Donc, on est qualifié dans une spécialité, notamment ici la médecine générale, bon, qui est une spécialité. Puis après, il y a des orientations particulières, notamment l'acupuncture. Il y a ce qu'on appelle une capacité, qui est un diplôme reconnu par l'ordre d'État, qui est presque qualifiant parce qu'on peut pratiquer exclusivement l'acupuncture. C'est-à-dire qu'on peut faire que l'acupuncture et pas forcément la médecine générale ou autre chose. Mais vous, en plus de ce côté administratif français, donc vous êtes acupuncteur reconnu par l'ordre, etc., praticien hospitalier à CHU de Nîmes, vous avez un bagage universitaire chinois, notamment un doctorat en médecine interne et en oncologie, donc c'est quand même qui vous donne un bagage et des compétences importantes. Alors, l'acupuncture fait partie du grand ensemble de la médecine chinoise, parce que on pense que la médecine chinoise, c'est que l'acupuncture. L'acupuncture n'est qu'une petite facette, si vous me permettez, de la médecine chinoise. Il y a la pharmacologie, il y a les massages, il y a etc., etc. C'est une pratique issue de la tradition médicale chinoise très particulière. Elle prend en compte les concepts de la médecine chinoise, notamment les cinq éléments, le yin et le yang. Elle est basée sur une philosophie, le confucianisme et une religion, le taoïsme, et utilise donc l'acupuncture des aiguilles, des moxas, des ventouses. Alors les moxas, ce sont des bâtons d'ambroise, c'est ça, hein, c'est
d'armoise,
qui se consument lentement, un peu comme un cigare, et dont on se sert pour stimuler certains points, suivant certaines données. Puis les ventouses, tout le monde le connaît, ben on utilise les ventouses aussi à l'acupuncture. Elle consiste à la stimulation, donc l'acupuncture, de points dits d'acupuncture sur divers endroits du corps à l'aide de techniques physiques, vous l'avez compris. Les résultats disponibles montrent que l'acupuncture pratiquée à l'aide d'aiguilles a des effets bénéfiques pour le traitement des douleurs chroniques, des nausées, vomissements, périodes post-opératoires liées à la grossesse ou provoquées par la chimiothérapie anticancéreuse. Si l'explication physiologique de l'action de ces traitements et la part éventuelle de l'effet placebo sont à ce jour impossibles à déterminer avec exactitude, les résultats cliniques montrent, eux, que l'acupuncture peut offrir un complément de soins intéressant dans le cadre d'une prise en charge globale, notamment lors des traitements proposés, ne sont pas en mesure d'offrir ou de soulager suffisamment. Alors, pourriez-vous, dans un premier temps, nous parler et nous raconter la médecine chinoise, l'acupuncture est une pratique ancienne, mais comment la définir simplement aujourd'hui ?
Alors oui, la médecine chinoise, donc déjà, il faut comprendre que la médecine chinoise, c'est un système médical complet qui a été élaboré dans ses grands fondements il y a un petit peu plus de 2000 ans, qui est effectivement influencé par, un système philosophique qui trouve ses sources dans le taoïsme chinois et qui définit une science, on peut dire, majoritairement naturaliste. C'est-à-dire c'est par l'observation de la nature que les Chinois anciens ont essayé aussi de appliquer les règles de la nature au fonctionnement de l'homme pour mieux le comprendre.
Alors le taoïsme est une religion chinoise. Il y a encore, si on va en Chine, il y a des temples taoïstes avec des dieux extrêmement compliqués. Mais la base, je reviens du Japon, c'est pour ça, la base est animiste, c'est-à-dire ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est l'observation de la nature qui a fait que...
Dire que c'est un courant de pensée, c'est un courant de pensée qui place l'homme au centre de la nature et qui l'envisage dans ses interactions avec son milieu naturel.
Voilà. D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi en acupuncture et qui intéresse les Occidentaux de plus en plus, qu'on retrouve aussi en sciences occidentales, c'est qu'il y a le microcosme qui est l'homme et le macrocosme qui est l'univers. Et il y a une interconnexion entre eux.
Oui, et c'est aussi ça. Donc la terminologie ancienne fait référence directement à ses origines naturalistes, où les noms des maladies portent le nom d'éléments naturels, comme par exemple le vent provoque de l'agitation, des tremblements de caractère changeant. Appliqués à l'homme, les maladies du vent sont des maladies erratiques en termes de localisation, en termes d'intensité, etc. Donc on retrouve ça dans la terminologie qui est utilisée. Comme vous disiez, l'acupuncture, c'est une des composantes de ce système. C'est un des outils thérapeutiques de la médecine chinoise, et les autres grands outils sont la pharmacopée chinoise, qui a une place centrale, disons, dans l'histoire et dans les sources classiques de la médecine chinoise, et aussi dans les travaux de recherche contemporains. On peut citer aussi la diétothérapie chinoise. Les Chinois se sont intéressés très tôt à l'influence directe qu'a l'alimentation sur la santé. Et puis tout ce qui relève des pratiques corps-esprit, il faut les citer parce qu'elles sont aussi validées dans certaines indications contemporaines, comme ce qu'on appelle le Qigong, hein, donc oui. Les exercices parfois énergétiques, même si je n'emploie pas beaucoup ce mot-là. Et puis toutes les méthodes externes, ce qu'on appelle le Tuina, c'est-à-dire massage, manipulation, qui font aussi partie de la pratique médicale chinoise. Et donc vous disiez, oui, effectivement, donc la définition simple de l'acupuncture, c'est que c'est une technique médicale où on va stimuler ce qu'on appelle des points. Là encore, on le met entre guillemets parce que ce n'est pas des points au sens mathématique, c'est vraiment une zone anatomique. On va stimuler une zone anatomique à l'aide d'une aiguille, et comme vous l'avez rappelé justement, pas uniquement, c'est aussi des méthodes physiques, c'est aussi la moxibustion qui va faire une stimulation avec de la chaleur, et puis dans les travaux contemporains aussi, c'est aussi l'usage du laser, et d'autres manières de stimuler des points par des méthodes physiques.
Voilà, alors, il y a quelque chose aussi que je voudrais dire, c'est que l'acupuncture qui utilise les aiguilles, c'est un peu dans l'ensemble de la médecine chinoise, comme la chirurgie chez nous, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer la médecine occidentale à la chirurgie. Et puis... donc ça c'est important. Puis pour revenir au point d'acupuncture, les Chinois n'avaient pas de méridien. Il y avait des méridiens pour apprendre, mais ce sont les Européens qui ont relié les points. Hein. Si on ne le sait pas, les statuts antiques d'acupuncture chinoise pour apprendre aux étudiants ne présentaient que des points. Donc il y avait des méridiens, mais ce n'était pas du tout formalisé. Alors qu'il y a des chercheurs, quand j'étais jeune, qui ont cherché des liens sur des méridiens, évidemment, en injectant, c'est la petite histoire, ça, hein, des marqueurs radioactifs sur les méridiens. Évidemment, ils n'ont rien trouvé parce que ces méridiens ne sont pas anatomiques. Alors, quelles sont les grandes différences entre la médecine chinoise, bon, qu'on connaît peu, vous la connaissez très bien, mais les Européens la connaissent peu, et la médecine européenne, là, normalement, les Européens la connaissent. Quels sont les grands principes sur lesquels repose l'acupuncture?
C'est une vaste question, mais disons qu'on peut donner quelques éléments.
La
médecine occidentale, on peut dire qu'elle... Elle repose sur l'analyse et la connaissance matérielle du vivant, dans ce qu'il a de plus en plus précis, de plus en plus petit. Et cette connaissance matérialiste, c'est la base du modèle biomédical.
Oui.
Ce qu'on peut dire de fondamental, à mon avis, sur la vision chinoise depuis ses fondements, c'est qu'elle a une vision d'un équilibre fonctionnel.
Oui.
Restaurer la santé, c'est restaurer l'équilibre entre des grandes fonctions à travers ce qu'on appelle le qi, qu'on traduit souvent par souffle ou énergie.
Qui s'écrit QI,
voilà, en pinyin. Et donc, je résumerai comme ça le plus simplement, c'est l'aspect fonctionnel. Une médecine fonctionnelle.
Voilà, mais il y a une clinique aussi en médecine chinoise basée sur la prise de pouls. C'était le sujet de mon mémoire, c'est pour ça. Sur l'aspect de la langue, etc., des urines, comme on faisait un peu dans la médecine européenne. Mais c'est vrai que c'est une médecine fonctionnelle. Donc, quand on dit aux Chinois qu'on dit sec, qu'ils sont, enfin, aux acupuncteurs chinois, qu'on dit sec, qu'ils sont très, très questionnés.
Oui,
on étudie le mort, alors qu'eux étudient le vivant. Donc, ça, c'est très intéressant.
On peut dire, pendant longtemps, en tout cas, c'est une réalité historique. Pendant longtemps, ils se sont peu intéressés à la réalité matérielle et à la dissection parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir apprendre quelque chose d'un organisme mort.
Ce qui est intéressant, c'est la fonction du vivant et pas le support mort. Donc, il y a peu de dissection. Et c'est vrai que les schémas anatomiques chinois font peur aux anatomistes européens. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Alors, on parle en médecine chinoise du yin-yang, des cinq éléments, une cinquième saison. Que sont ces éléments qui nous sont étranges à nous occidentaux? Nous, on a quatre, on reste avec les Grecs, ce qui est complètement faux. Hein. Les Grecs avaient en fait cinq éléments. Mais on reste avec les quatre éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Mais les Chinois ont cinq éléments. Alors expliquez-nous un peu le yin-yang et les cinq
alors,
éléments.
Oui, alors effectivement, là on part dans à nouveau dans les sources taoïstes, la doctrine du yin et du yang et de ce qu'on appelle les cinq mouvements, qui est une extrapolation des sous-divisions du yin et du yang. On peut dire, là encore, si on reste strict, on peut dire que ce sont des éléments de classification. Yin et Yang permettent de classifier les manifestations du vivant à travers deux grands pôles qui s'opposent. Alors on prend souvent des exemples, hein, ce qui est simple, le repos par rapport à l'activité, le repos est Yin, l'activité est Yang. Le froid est Yin alors que la chaleur est Yang. Et donc, appliqué à la santé, on peut dire que le ralentissement global du corps est plutôt un symptôme Yin, alors que l'hyperactivité, l'insomnie révèlent un déséquilibre du Yang, etc. Donc on est dans un élément de classification qui permet, si vous voulez, de définir la santé au sens de la médecine chinoise, ramenée au plus essentiel. Il y a une expression qui dit le yin équanime et le yang secret. C'est-à-dire que la santé au sens chinois ancien est définie par le fait qu'aucun des deux aspects ne s'exprime de manière excessive par rapport à l'autre.
Et les cinq éléments ?
Cinq éléments, c'est un... Donc ces cinq mouvements sont une extrapolation de ce système. Qui explique comment les différentes parties du corps interagissent entre elles. Là, ça fait référence aussi à une vision aussi, un autre aspect de la vision chinoise qui est lié à l'influence politique, en fait, hein, à l'unification de l'Empire au IIe siècle avant notre ère. L'Empire est unifié et on a besoin de plaquer sur le corps une vision politique. Et là, c'est un autre aspect, c'est pas la vision naturaliste, c'est la vision politique. On plaque des théories politiques sur, en fait, le corps se gouverne comme un empire ou comme un État. Et donc, c'est très lié à ça.
Alors, avant notre pause, quand même, il faut que je vous pose cette question, mais une réponse courte, hein, puisque vous faites des recherches, hein, donc vous êtes quand même au courant, puisque le CHU fait des recherches. Comment explique-t-on scientifiquement l'effet de l'acupuncture ?
Alors, on a de plus en plus de travaux qui ont expliqué les mécanismes fondamentaux de l'acupuncture. On a souvent cherché, comme vous disiez, la nature des méridiens, la nature de la stimulation. Il y a quelque chose qui est assez admis maintenant, c'est que la stimulation de départ de l'acupuncture part du système, des fibroblastes, et donc de tout ce qui est le tissu conjonctif.
Oui.
Quand on plante une aiguille d'acupuncture...
Les fibroblastes, ce sont des cellules qui appartiennent au tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est ce qui comble tous les tissus. Hein. Par exemple, la graisse fait partie du tissu conjonctif. Les anatomopathologistes vont bondir, mais simplement pour vous indiquer ce que c'est que le tissu conjonctif.
On a pu voir qu'anatomiquement, beaucoup des points d'acupuncture sont dans des zones de jonction spécifiques au sein de ce tissu conjonctif. Et donc la stimulation initiale de l'aiguille va engendrer déjà une stimulation mécanique qui va se transformer en un flux chimique électrique qui va être transmis aux différents systèmes. Le modèle de la douleur a bien été étudié là-dessus et on connaît des niveaux dits segmentaires, c'est-à-dire tout ce qui passe, tout ce qui est régulé à l'entrée dans la moelle épinière, un niveau qui est supraspinal, c'est-à-dire tout ce qui est sous le cortex, et un niveau de régulation au niveau du cortex sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect régulation endocrinienne, etc. Donc ça, c'est des modèles qui sont... Il y a des publications et des travaux bien, bien, bien étayés là-dessus.
Donc vous voyez, il y a quand même une explication scientifique et les acupuncteurs ne sont pas uniquement des mages. Je vous propose une trêve musicale avec une musique qui peut être en lien avec l'acupuncture.
Thank you.
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Marc Fréard. Quelle place a actuellement l'acupuncture dans l'arsenal thérapeutique médical et que se passe-t-il concrètement lors d'une séance?
Alors,
on verra les indications plus tard dans une autre émission.
Oui, peut-être mais plus en détail.
Mais comment se passe une séance?
En général, l'acupuncture, on peut la classer dans les pratiques dites complémentaires. Mm-hmm. On ne parle plus du tout de médecine alternative, hein, c'est un très mauvais terme.
Oui, ça, c'est des médecines,
donc on parle
de médecine parallèle, c'est des médecines qui rejoignent. Hein, parallèle, ça a toujours été.
Ouais, voilà. Donc on parle, c'est plus du tout ça qui définit clairement. Donc on est dans une pratique complémentaire. On peut aussi dire que l'acupuncture est classée dans ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses,
oui.
Qui est un vaste champ de recherche. Et qui se définit de plus en plus aussi par des recherches académiques et universitaires. Donc on peut mettre l'acupuncture là-dedans. Après sa place, où on parlera plus des indications, dans la douleur, dans les soins oncologiques de support, où là on a vraiment des choses bien, bien documentées maintenant. Et puis concrètement, oui, une séance dans notre service, ça commence par déjà une consultation médicale, un entretien complet, un interrogatoire sur les motifs, les antécédents, etc. Puis l'aspect vraiment spécifique à notre démarche en médecine chinoise avec l'examen du pouls, de la langue, la palpation des méridiens, qui est spécifique à la démarche.
Spécifique à l'acupuncture.
Et après, élaboration d'un diagnostic selon, alors là on pourra peut-être détailler plus tard, mais selon la médecine chinoise et selon
la médecine occidentale,
quoi, hein, selon la médecine occidentale. Et puis, on va donner un schéma de soins, un nombre de séances, une fréquence en fonction de notre évaluation.
Il faut quand même des fréquences, parce que moi, quand je pratiquais l'acupuncture, j'ai eu un patient qui est venu me dit « je vais essayer l'acupuncture, je fais de ça l'acupuncture ». J'ai dit « vous voulez qu'on se rende compte ?» Il dit « non, je vais attendre ». J'ai dit « non, c'est, l'acupuncture se fait par séance ». Alors, une autre question, vous répondez par oui ou par non. L'acupuncture est-elle douloureuse ?
Globalement, plutôt non.
Mais non, moi quand je piquais, les gens me disent « vous pouvez piquer ?» Je dis « mais ça fait 10 minutes que vous êtes déjà piqué ». Donc n'ayez pas peur, l'acupuncture n'est pas douloureuse. Vous risquez absolument rien au niveau infectieux puisque ce sont des aiguilles jetables, c'est-à-dire qu'on utilise une seule fois l'aiguille. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de problème ni de douleur, ni de passage de maladies infectieuses. Alors il y a une polémique qui est apparue récemment, mais je voulais évoquer quand même, venue de jeunes médecins hein, qui mettent en doute l'efficacité de l'acupuncture. Alors quel est votre avis? Bon, vous, on pense que vous êtes pour, mais d'où vient cette polémique?
Alors, son origine exacte, je ne sais pas trop. Si vous voulez. Bon, l'aspect de la controverse, elle est normale en médecine. Et de manière générale, toutes les pratiques, elles doivent
être... Mais là, il y a eu un rentre-dedans qui a été quand même un peu fort, à mon avis.
Mais on sait que toutes les pratiques doivent être évaluées scientifiquement. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire simplement sur l'acupuncture, c'est qu'il y a des niveaux de preuves variables selon les indications.
Voilà.
Et pour celles qui ne sont pas encore correctement assez bien documentées, eh bien... on produit des méthodes de recherche et on propose de la recherche. Donc ça, c'est une démarche normale. Alors après, oui, si vous faites référence, il y a certainement des gens qui sont dans un rejet plus idéologique, mais là, je pense qu'aujourd'hui, en fait, le niveau de preuve sur certaines indications de l'acupuncture est suffisant pour ne pas la rejeter globalement.
Voilà.
Et donc là, à mon avis, les gens qui sont dans le rejet global sont plus dans le discours scientifique médical.
C'est un peu ce que je voulais que vous disiez.
C'est les gens qui ont dépassé, à mon avis.
Il y a des indications d'acupuncture. C'est évident que quelqu'un qui arrive avec un cancer de la prostate, on ne va pas lui soigner le cancer de la prostate par acupuncture. On va l'accompagner dans sa gestion globale de son cancer de l'acupuncture, suivant les signes que l'acupuncture peut lui améliorer. Et est-ce que l'on peut considérer l'acupuncture comme une thérapeutique efficace? Donc, vous avez dit oui. Hein. Et comment cette pratique trouve-t-elle sa place dans l'hôpital, la médecine moderne actuellement?
Alors, l'efficacité, oui, donc on l'a dit, dans des indications précises.
Oui, des indications. Hein, mais alors, la chirurgie, vous savez, je pratiquais l'hypnose et la sophrologie. Les chirurgiens, en rigolant, me disaient, de toute façon, ça ne marche pas, l'hypnose, la sophrologie, ça ne marche pas. Alors, je leur répondais, oui, comme la chirurgie ne marche pas. Alors, évidemment, un chirurgien, quand vous dites que la chirurgie ne marche pas, je dis, oui, si le patient ne rentre pas au bloc opératoire, tu ne peux rien faire, donc la chirurgie ne marche pas. Mmh. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des indications, on ne peut pas faire n'importe quoi, et donc il faut aller voir des professionnels de santé qui ont des indications, comme on l'avait dit, donc ça marche sur les indications.
Donc ça, c'est quand même bien documenté. L'Organisation mondiale de la santé a depuis très tôt, au début des années 2000, produit des listes d'indications sur lesquelles on a des preuves robustes de l'efficacité, donc ça, c'est très facile à trouver. Et puis, il y a eu production dans les années 2012 et jusqu'aux années 2020 de très grandes méta-analyses aussi qui ont démontré l'efficacité, même au-delà de l'effet placebo, puisque ça a longtemps été un questionnement, hein, qui était, là encore, une controverse tout à fait normale. C'est est-ce qu'on est supérieur à un placebo? Et on peut le dire maintenant, oui. Selon certains travaux, notamment dans la douleur où c'est bien étayé, on a un effet spécifique de la technique qui s'explique au-delà de simplement d'un effet placebo.
Alors, pour simplement expliquer, une méta-analyse, c'est en fait plusieurs centres de recherche qui se mettent en... Au lieu d'avoir 20 chercheurs, vous en avez 2000 sur la planète et qui font les mêmes expériences. On en retire le bénéfice ou le négatif. Hein. Nous pouvons rajouter que les risques d'effets indésirables graves sont extrêmement limités dans le contexte d'un exercice bien contrôlé et pratiqué par des membres des professions médicales formés avec utilisation d'aiguilles stériles à usage unique, je vous l'ai déjà dit, en dehors du risque infectieux qui reste exceptionnel et que l'on trouve que chez les acupuncteurs non professionnels de soins. Il existe quelques risques de douleurs locales au moment de l'insertion d'une aiguille, d'un léger saignement ou de formation d'échymose, mais c'est quand même exceptionnel. Alors ce que je voulais souligner, c'est que l'acte d'acupuncture est considéré par la jurisprudence comme un acte médical. En conséquence, seuls les membres des professions médicales peuvent le pratiquer. Médecins, chirurgiens, dentistes, pour les actes en lien avec la chirurgie dentaire, bien évidemment, hein, et sage-femme pour les actes en lien avec l'obstétrique et la gynéco si elle s'en occupe. Les personnes n'appartenant pas au corps médical et pratiquant l'acupuncture peuvent être poursuivies pour exercice illégal de la médecine, nous précise une fiche officielle rédigée par le ministère de la Santé et de la Prévention que vous pouvez retrouver sur Internet. Ce n'est pas du tout mon avis. Et c'est quelque chose qui est légal et qui est publié. Alors, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur l'acupuncture en général ? Donc vous, votre lieu de travail, c'est le CHU, dans l'unité du sommeil.
Tout à fait, oui. Sur la place qu'elle peut occuper à l'hôpital, je pense que vous savez que le CHU de Nîmes a été pionnier là-dedans,
On en reviendra, il y a une mission.
Et donc, voilà, c'est grâce à des pionniers comme ça, le professeur Bossy, etc., qu'on a pu développer une pratique clinique et de la recherche qui est fondamentale, parce que on est critiqué pour manque de données, surtout.
Oui, mais c'est faux. Il y a une la bibliothèque de Nîmes, Jean Bossy avait donné son fonds, qui est une bibliothèque internationale sur l'acupuncture. Et donc, la bibliothèque de Nîmes était la bibliothèque de l'acupuncture en France.
Quoi. Oui, tout à fait.
Non, ça a pu changer.
Ça s'est développé avec des bases
voilà,
en ligne, etc.
Ça a changé, mais c'était une des... Les chercheurs venaient de France entière. Eh bien, docteur Marc Féard, cher confrère, je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre savoir et votre expérience. Merci d'avoir eu la gentillesse, car vous êtes un homme très occupé, de nous évoquer votre vie de médecin passionné par l'humain et l'acupuncture et la médecine chinoise, qui est extraordinaire, qui est remplie de richesses. Merci infiniment à vous et bonne continuation à la pratique de l'acupuncture.
Merci Jacques.
Voilà, alors j'ai l'habitude, vous savez, de finir, et j'y tiens, mais c'est important, il faut continuer à lire. N'oubliez pas que je suis aussi écrivain, de finir cette émission par une rubrique en fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui. Et j'ai demandé au docteur Marc Fréard de nous citer un des livres sur l'acupuncture. Vous en aurez d'autres, hein, d'autres émissions.
Alors, j'en citerai un, il y a un livre qui s'appelle « À la découverte de la diététique chinoise de Madame Chaplet » qui donne... publié chez Très Daniel, qui est un livre très facile à trouver, qui donne accès, ces concepts de la médecine chinoise appliqués à l'alimentation, à l'équilibre au sens médical chinois, appliqués à la diététique, avec voilà, des recettes, quelque chose de très illustré, et des orientations en fonction de votre état de santé, qu'on utilise aussi dans le service, parfois.
Ça, c'est bien, parce que les gens, les hommes, peuvent voir comment s'orienter dans la médecine.
Et donc, c'est la base, hein, s'alimenter correctement, c'est une des bases. Donc,
alors, moi, je voudrais citer aussi tous les livres de Jean Bossy, qui a été mon maître en acupuncture, aussi bien en acupuncture, mais bon, c'est peut-être un peu technique. Hein. Et puis aussi, il a fait un livre sur l'histoire de la médecine en Asie, qui est fort intéressant. Mais j'aimerais aussi vous signaler un livre aux éditions Guy Trédaniel, Zoothérapie, l'animal, une révolution dans le domaine des soins, d'Audrey Desrosier et Mélissa, alors là je prononce mal, hein, Snowsward, vous m'excusez, qui viennent de paraître. Merci à vous Marc et merci de votre présence.
Merci.
Je remercie Louis à la technique et Chanel Louisuel et toute l'équipe de Radio Alliance Plus. Je vous renouvelle aussi mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention, de l'écoute de votre santé, un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.9 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.